Lewis Carroll, Aventure d'Alice au Pays des Merveilles. Traduit de l'anglais par Henri Buet. Dédicace. L'auteur désire exprimer ici sa reconnaissance envers le traducteur de ce qu'il a remplacé par des paroles de sa composition, quelques parodies de morceaux de poésie anglais, qui n'avaient de valeur que pour des enfants anglais, et aussi de ce qu'il a su donner en jeux de mots français les équivalents des jeux de mots anglais, dont la traduction n'était pas possible. Notre barque glisse sur l'onde que dorent de brûlants rayons. Sa marche, lente et vagabonde, témoigne que des bras mignons, pleins d'ardeur, mais encore novices, tout fiers de ce nouveau travail, mènent au gré de leurs caprices les rames et le gouvernail. Soudain, trois cris se font entendre, cris funestes à la langueur, dont je ne pouvais me défendre par ce temps chaud qui rend rêveur. « Un conte ! Un conte !» disent-elles toutes d'une commune voix. Il fallait céder au cruel. Que pouvais-je, hélas, contre trois ? La première, d'un ton suprême, donne l'ordre de commencer. La seconde, la douceur même, se contente de demander des choses à ne pas y croire. Nous ne fûmes interrompus par la troisième, c'est notoire, qu'une fois par minute, au plus. Puis, muette, prêtant l'oreille au conte de l'enfant rêveur, qui va de merveille en merveille, causant avec l'oiseau causeur, leur esprit suit la fantaisie, où se laisse aller le conteur, et la vérité tôt oublie pour se confier à l'erreur. Le conteur, espoir chimérique, cherche, se sentant épuisé, à briser le pouvoir magique du charme qu'il a composé, et, tantôt, voudrait de ce rêve finir le récit commencé. Non, non, c'est tantôt, pas de trêve, est le jugement prononcé. Ainsi, du pays des merveilles, se racontèrent lentement les aventures sans pareil, incident après incident. Alors, vers le prochain rivage, où nous devions tous débarquer, rama le joyeux équipage. La nuit commençait à tomber. Douce Alice, acceptez l'offrande de ces gais récits enfantins, et tressez-en une guirlande, comme on voit faire aux pèlerins de ces fleurs qu'ils ont recueillies, et que plus tard, dans l'avenir, bien qu'elles soient, hélas, flétries, ils chérissent en souvenir. Chapitre 1er. Au fond du terrier. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi ? Pas d'image ? Pas de dialogue ? La belle avance, pensait Alice, qu'un livre sans image, sans causerie. Elle s'était mise à réfléchir. Tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs. Quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait là rien de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard !» En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit, comme un tunnel, puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir. De deux choses l'une, ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir, dans sa chute, de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais il y faisait bien trop sombre pour y rien voir. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elles étaient garnies d'armoires et d'étagères. Çà et là, elle vit pendues à des clous des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette « Marmelade d'orange ». Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une des armoires. « Certes, dit Alice, après une chute pareille, je ne me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier, comme ils vont me trouver brave chez nous. Je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte. » Ce qui était bien probable. « Tombe, tombe, tombe !»« Cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà fait. » dit-elle tout haut. « Je dois être bien près du centre de la Terre. Voyons donc, cela serait à 4000 milles de profondeur, il me semble. » Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons. Et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeur, cependant c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. « Oui, c'est bien à peu près cela. Mais alors, à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve ?» Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt, elle reprit. « Si j'allais traverser complètement la terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu de gens qui marchent la tête en bas !» Aux antipathies, je crois. » Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eût personne là pour l'entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Et mais j'aurais alors demandé le nom du pays. Pardon, madame, est-ce ici la Nouvelle-Zemble ou l'Australie ? En même temps, elle essaya de faire la révérence. « Quelle idée, faire la révérence en l'air. Dites-moi un peu, comment vous y prendriez-vous »« Quelle petite ignorante !» pensera la dame quand je lui poserai cette question. « Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. »« Tombe, tombe, tombe !» Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à parler. Dinah remarquera mon absence ce soir, bien sûr. » Dinah, c'était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Dinah, ma minette, que n'es-tu ici avec moi? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils les chauves-souris? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait, à moitié endormie, « Les chats mangent-ils les chauves-souris ? Les chats mangent-ils les chauves-souris ? » Et quelquefois, « Les chauves-souris mangent-elles les chats ?» Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait, tenant Dinah par la main, lui disant très sérieusement « Voyons, Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé des chauves-souris ?» Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches. Et elle a fini de tomber. Alice ne s'était pas fait le moindre mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air. Mais tout est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas un instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard !» Elle n'en était plus qu'à deux pas. Mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle. Ces portes étaient toutes fermées. Et après avoir vainement tenté d'ouvrir celle du côté droit, puis celle du côté gauche, Alice se promena tristement au beau milieu de cette salle, se demandant comment elle en sortirait. Tout à coup, elle rencontra sur son passage une petite table à trois pieds, en verre massif, et rien dessus qu'une toute petite clé d'or. Alice pensa aussitôt que ce pouvait être celle d'une des portes. Mais hélas, soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clé fût trop petite, elle ne put toujours en ouvrir aucune. Cependant, ayant fait un second tour, elle aperçut un rideau placé très bas et qu'elle n'avait pas vu d'abord. Par derrière se trouvait encore une petite porte à peu près 15 pouces de haut. Elle essaya la petite clé d'or à la serrure et, à sa grande joie, il se trouva qu'elle y allait à merveille. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle conduisait dans un étroit passage à peine plus large qu'un trou à rat. Elle s'agenouilla et, jetant les yeux le long du passage, découvrit le plus ravissant jardin du monde. Oh ! Qu'il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d'errer au milieu de ces carrés de fleurs brillantes, de ces fraîches fontaines. Mais sa tête ne pouvait même pas passer par la porte. « Et quand même ma tête y passerait !» pensait Alice. « À quoi cela servirait-il sans mes épaules ? Oh ! Que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope ! Ça se pourrait peut-être, si je savais comment m'y prendre. » Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires qu'Alice commençait à croire qu'il n'y en avait guère d'impossible. Comme cela n'avançait à rien de passer son temps à attendre à la petite porte, elle retourna vers la table, espérant presque y trouver une autre clé, ou tout au moins quelques grimoires donnant les règles à suivre pour se fermer comme un télescope. Cette fois, elle trouva sur la table une petite bouteille, qui certes n'était pas là tout à l'heure. Au cou de cette petite bouteille était attachée une étiquette en papier avec ces mots « Buvez-moi », admirablement imprimés en grosses lettres. « C'est bien facile à dire, buvez-moi !» Mais Alice était trop fine pour obéir à l'aveuglette. « Examinons d'abord, » dit-elle, « et voyons s'il y a écrit dessus « poison » ou non. » Car elle avait lu dans de jolis petits contes que des enfants avaient été brûlés, dévorés par des bêtes féroces, et qu'il leur était arrivé d'autres choses très désagréables. Tout cela pour ne s'être pas souvenu des instructions bien simples que leur donnaient leurs parents. Par exemple, que le tisonnier chauffé à blanc brûle les mains qui le tiennent trop longtemps. Que si on se fait au doigt une coupure profonde, il saigne d'ordinaire. Et elle n'avait point oublié que si l'on boit immodérément d'une bouteille marquée « poison », cela ne manque pas de brouiller le cœur tôt ou tard. Cependant, comme cette bouteille n'était pas marquée « poison », Alice se hasarda à en goûter le contenu, et le trouvant fort bon. Au fait, c'était comme un mélange de tarte aux cerises, de crème, d'ananas, de dinde truffée, de nougat et de rôti au beurre. Elle l'eut bientôt tout avalé.
« Je me sens toute drôle, » dit Alice. « On dirait que je rentre en moi-même et que je me ferme comme un télescope. »
C'est bien ce qui arrivait en effet. Elle n'avait plus que 10 pouces de haut. Et un éclair de joie passa sur son visage à la pensée qu'elle était maintenant de la grandeur voulue pour pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Elle attendit pourtant quelques minutes pour voir si elle allait rapetisser encore. Cela lui faisait bien un peu peur.
« Songez donc, se disait Alice, je pourrais bien finir par m'éteindre comme une chandelle. Que deviendrais-je alors ? »
Et elle cherchait à s'imaginer l'air que pouvait avoir la flamme d'une chandelle éteinte, car elle ne se rappelait pas avoir jamais rien vu de la sorte. Un moment après, voyant qu'il ne se passait plus rien, elle se décida à aller de suite au jardin. Mais, hélas, pauvre Alice, en arrivant à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Elle revint sur ses pas pour la prendre sur la table. Bah, impossible d'atteindre à la clé, qu'elle voyait bien clairement à travers le verre. Elle fit alors tout son possible pour grimper le long d'un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Et enfin, épuisée de fatigue, la pauvre enfant s'assit et pleura.
« Allons, à quoi bon pleurer ainsi ? » se dit Alice vivement. « Je vous conseille, mademoiselle, de cesser tout de suite. »
Elle avait pour habitude de se donner de très bons conseils, bien qu'elle les suivît rarement. Et quelquefois, elle se grondait si fort que les larmes lui en venaient aux yeux. Une fois même, elle s'était donné des tapes pour avoir triché dans une partie de croquet qu'elle jouait toute seule. Car cet étrange enfant aimait beaucoup à faire 2 personnages. Pensa la pauvre Alice. « Il n'y a plus moyen de faire 2 personnages à présent qu'il me reste à peine de quoi en faire un. » Elle aperçut alors une petite boîte en verre qui était sous la table, l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « mangez-moi » étaient admirablement tracés avec des raisins de Corinthe. « Tiens, je vais le manger !» dit Alice. « Si cela me fait grandir, je pourrai atteindre à la clé. Si cela me fait rapetisser, je pourrai ramper sous la porte. D'une façon ou de l'autre, je pénétrerai dans le jardin. Et alors, arrive que pourra. » Elle mangea donc un petit morceau du gâteau. Et, portant sa main sur sa tête, elle se dit tout inquiète. « Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? » Elle voulait savoir si elle grandissait ou rapetissait, et fut tout étonnée de rester la même. Franchement, c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'on mange du gâteau. Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extraordinaires que cela lui paraissait ennuyeux et stupide de vivre comme tout le monde. Aussi, elle se remit à l'œuvre et eut bien vite fait disparaître le gâteau. Chapitre 2 La mare aux larmes.
De plus très curieux en plus très curieux, s'écria Alice.
Sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement.
Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui fut jamais, Adieu, mes pieds !» Elle venait de baisser les yeux, et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue.
« Oh, mes pauvres petits pieds! Qui vous mettra vos bas et vos souliers maintenant, mes mignons? Quant à moi, je ne le pourrai certainement pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Arrangez-vous du mieux que vous pourrez. Il faut cependant que je sois bonne pour eux, » pensa Alice. « Sans cela, ils refuseront peut-être d'aller du côté que je voudrais. Ah, je sais ce que je ferai. Je leur donnerai une belle paire de bottines à Noël. »
Puis elle chercha dans son esprit comment elle s'y prendrait.
« Il faudra les envoyer par le messager, » pensa-t-elle. « Quelle étrange chose d'envoyer des présents à ses pieds. Et l'adresse donc, c'est cela qui sera drôle. À Monsieur le pied droit d'Alice, tapis du foyer, près le garde-feu, de la part de Mademoiselle Alice. Oh, que d'enfantillage, je dis là !»
Au même instant, sa tête heurta contre le plafond de la salle. C'est qu'elle avait alors un peu plus de 9 pieds de haut. Vite, elle saisit la petite clé d'or et courut à la porte du jardin. Pauvre Alice, c'est tout ce qu'elle put faire, après s'être étendue de tout son long sur le côté, que de regarder du coin de l'œil dans le jardin. Quant à traverser le passage, il n'y fallait plus songer. Elle s'assit donc et se remit à pleurer.
« Quelle honte !» dit Alice. « Une grande fille comme vous !»
Grande était bien le mot.
« Pleurez de la sorte. Allons, finissez, vous dis-je. »
Mais elle continua de pleurer, versant des torrents de larmes, si bien qu'elle se vit à la fin entourée d'une grande mare, profonde d'environ 4 pouces et s'étendant jusqu'au milieu de la salle. Quelque temps après, elle entendit un petit bruit de pas dans le lointain. Vite, elle s'essuya les yeux pour voir ce que c'était. C'était le lapin blanc, en grande toilette, tenant d'une main une paire de gants paille et de l'autre un large éventail. Il accourait tout effaré, marmottant entre ses dents.
« Oh, la duchesse! La duchesse! Elle sera dans une belle colère si je l'ai fait attendre !»
Alice se trouvait si malheureuse qu'elle était disposée à demander secours au premier venu. Ainsi, quand le lapin fut près d'elle, elle lui dit d'une voix humble et timide
« Je vous en prie, monsieur. »
Le lapin tressaillit d'épouvante, laissa tomber les gants et l'éventail et se mit à courir à toutes jambes et disparut dans les ténèbres. Alice ramassa les gants et l'éventail et, comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'éventa tout en se faisant la conversation.
« Que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit. Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie? Voilà l'embarras. »
Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles.
« Bien sûr, je ne suis pas Ada, » dit-elle. « Elle a de longs cheveux bouclés, et les miens ne frisent pas du tout. Assurément, je ne suis pas ma belle, car je sais tout plein de choses, et ma belle ne sait presque rien. Et puis du reste, ma belle, c'est ma belle. Alice, c'est Alice. Oh, mais quelle énigme que cela! Voyons si je me souviendrai de tout ce que je savais. 4 × 5 font 12. 4 × 6 font 13. 4 × 7 font... Je n'arriverai jamais à 20 de ce train-là. Mais peu importe la table de multiplication. Essayons de la géographie. Londres est la capitale de Paris. Paris, la capitale de Rome. Et Rome, la capitale de... « Mais non, ce n'est pas cela, j'en suis bien sûre. Je dois être changée en ma belle. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. »
Elle croisa les mains sur ses genoux comme quand elle disait ses leçons et se mit à répéter la fable d'une voix rauque et étrange, et les mots ne se présentaient plus comme autrefois. Maître Corbeau, sur un arbre perché, faisait son nid entre des branches. Il avait relevé ses manches, car il était très affairé. Maître Renard, par là passant, lui dit « Descendez donc, compère, venez embrasser votre frère. » Le corbeau, le reconnaissant, lui répondit en son ramage « Fromage !»«
Je suis bien sûr que ce n'est pas ça du tout !» s'écria la pauvre Alice,
et ses yeux se remplirent de larmes.
« Ah, je le vois bien, je ne suis plus Alice, je suis ma belle, et il me faudra aller vivre dans cette vilaine petite maison, où je n'aurai presque pas de jouets pour m'amuser. Oh, que de leçons on me fera apprendre !»« Oui, certes, j'y suis bien résolue. Si je suis ma belle, je resterai ici. Ils auront beau passer la tête là-haut et me crier « Reviens auprès de nous, ma chérie !» Je me contenterai de regarder en l'air et de dire « Dites-moi d'abord qui je suis, et s'il me plaît d'être cette personne-là, j'irai vous trouver. Sinon, je resterai ici, jusqu'à ce que je devienne une autre petite fille. » « Et pourtant, » dit Alice en fondant en larmes, « je donnerai tout au monde pour les voir montrer la tête là-haut. Je m'ennuie tant d'être ici toute seule. »
Comme elle disait ces mots, elle fut bien surprise de voir que, tout en parlant, elle avait mis un des petits gants du lapin.
« Comment ai-je pu mettre ce gant ? » pensa-t-elle. « Je rapetisse donc de nouveau ?»
Elle se leva, alla près de la table pour se mesurer, et jugea, autant qu'elle pouvait s'en rendre compte, qu'elle avait environ 2 pieds de haut, et continuait de raccourcir rapidement. Bientôt, elle s'aperçut que l'éventail qu'elle avait à la main en était la cause. Vite, elle le lâcha, tout juste à temps pour s'empêcher de disparaître tout à fait.
« Je viens de l'échapper belle, » dit Alice, tout émue de ce brusque changement, mais bien aise de voir qu'elle existait encore. « Maintenant, vite au jardin !»
Elle se hâta de courir vers la petite porte. Mais, hélas, elle s'était refermée, et la petite clé d'or se trouvait sur la table de verre, comme tout à l'heure.
« Les choses vont de mal en pis, » pensa la pauvre enfant. « Jamais je ne me suis vue si petite, jamais, et c'est vraiment par trop fort. »
À ces mots, son pied glissa et, flac, la voilà dans l'eau salée jusqu'au menton. Elle se crut d'abord tombée dans la mer.
« Dans ce cas, je retournerai chez nous en chemin de fer, » se dit-elle.
Alice avait été au bord de la mer une fois en sa vie et se figurait que sur n'importe quel point des côtes se trouve un grand nombre de cabines pour les baigneurs, des enfants qui font des trous dans le sable avec des pelles en bois, une longue ligne de maisons garnies et derrière ces maisons, une gare de chemin de fer. Mais elle comprit bientôt qu'elle était dans une mare formée des larmes qu'elle avait pleurées quand elle avait 9 pieds de haut.
« Je voudrais bien n'avoir pas tant pleuré, » dit Alice, tout en nageant de côté et d'autre pour tâcher de sortir de là. « Je vais en être punie sans doute, en me noyant dans mes propres larmes. C'est cela qui sera drôle. Du reste, tout est drôle aujourd'hui. »
Au même instant, elle entendit patauger dans la mare à quelques pas de là, et elle nagea de ce côté pour voir ce que c'était. Elle pensa d'abord que ce devait être un cheval marin ou hippopotame. Puis elle se rappela combien elle était petite maintenant, et découvrit bientôt que c'était tout simplement une souris qui, comme elle, avait glissé dans la mare.
Si j'adressais la parole à cette souris, tout est si extraordinaire ici qu'il se pourrait bien qu'elle sût parler. Dans tous les cas, il n'y a pas de mal à essayer.
Elle commença donc.
« Oh, souris, savez-vous comment on pourrait sortir de cette mare? Je suis bien fatiguée de nager, oh, souris. »
Alice pensait que c'était là la bonne manière d'interpeller une souris. Pareille chose ne lui était jamais arrivée, mais elle se souvenait d'avoir vu dans la grammaire latine de son frère « la souris de la souris à la souris aux souris ». La souris la regarda d'un air inquisiteur. Alice crut même la voir cligner un de ses petits yeux. Mais elle ne dit mot.
« Peut-être ne comprend-elle pas cette langue ?» dit Alice. « C'est sans doute une souris étrangère, nouvellement débarquée. Je vais essayer de lui parler italien. »«
Dove è il mio gatto ?»
C'étaient là les premiers mots de son livre de dialogue. La souris fit un bond hors de l'eau et parut trembler de tous ses membres.
« Oh, mille pardons !»
s'écria vivement Alice, qui craignait d'avoir fait de la peine au pauvre animal.
« J'oubliais que vous n'aimez pas les chats. »«
Aimez les chats ?»
cria la souris d'une voix perçante et colère.
« Et vous, les aimeriez-vous si vous étiez à ma place ?»«
Non, sans doute, »
dit Alice d'une voix caressante pour l'apaiser.
« Ne vous fâchez pas. Pourtant, je voudrais bien vous montrer Dina, notre chatte. Oh, si vous la voyez, je suis sûre que vous prendriez de l'affection pour les chats. Dina est si douce et si gentille. »
Tout en nageant nonchalamment dans la mare et parlant moitié à part soi, moitié à la souris, Alice continua.
« Elle se tient si gentiment auprès du feu à faire son rouet, à se lécher les pattes et à se débarbouiller. Son poil est si doux à caresser.
Et comme elle attrape bien les souris !»«
Oh, pardon !»
dit encore Alice, car cette fois le poil de la souris s'était tout hérissé, et on voyait bien qu'elle était fâchée tout de bon.
« Nous n'en parlerons plus si cela vous fait de la peine. »«
Nous ? Dites-vous ? »
s'écria la souris en tremblant de la tête à la queue.
« Comme si moi je parlais jamais de pareilles choses. Dans notre famille, on a toujours détesté les chats. Vile créature, sans foi ni loi. Que je ne vous en entende plus parler. »
« Eh bien non, » dit Alice qui avait hâte de changer la conversation.
« Est-ce que vous aimez les chiens ?»
La souris ne répondit pas, et Alice dit vivement
« Il y a tout près de chez nous un petit chien bien mignon que je voudrais vous montrer. C'est un petit terrier aux yeux vifs, avec de longs poils bruns frisés. Il rapporte très bien. Il se tient sur ses deux pattes de derrière et fait le beau pour avoir à manger. Enfin, il fait tant de tours que j'en oublie plus de la moitié. Il appartient à un fermier qui ne le donnerait pas pour 1000 francs tant il lui est utile. Il tue tous les rats. Et aussi...
Oh !
Reprit Alice d'un ton chagrin.
Voilà que je vous ai encore offensé.
En effet, la souris s'éloignait en nageant de toutes ses forces, si bien que l'eau de la mare en était tout agitée. Alice la rappela doucement.
Ma petite souris, revenez, je vous en prie. Nous ne parlerons plus ni de chiens ni de chats, puisque vous ne les aimez pas.
À ces mots, la souris fit volte-face et se rapprocha tout doucement. Elle était toute pâle.
« De colère !» pensait Alice.
La souris dit d'une voix basse et tremblante.
« Gagnons la rive, je vous conterai mon histoire, et vous verrez pourquoi je hais les chats et les chiens. »
Il était grand temps de s'en aller, car la mare se couvrait d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lory, un aiglon et d'autres bêtes extraordinaires. Alice prit les devants et toute la troupe nagea vers la rive. Chapitre 3 : La course cocasse.
Ils formaient une assemblée bien grotesque, ces êtres singuliers réunis sur le bord de la mare. Les uns avaient leurs plumes tout en désordre, les autres le poil plaqué contre le corps. Tous étaient trempés, de mauvaise humeur et fort mal à l'aise.
« Comment faire pour nous sécher ?»
Ce fut la première question, cela va sans dire. Au bout de quelques instants,
il sembla tout naturel à Alice de causer familièrement avec ses animaux, comme si elle les connaissait depuis son berceau. Elle eut même une longue discussion avec le Lory, qui, à la fin, lui fit la mine et lui dit d'un air boudeur « Je suis plus âgé que vous, et je dois par conséquent en savoir plus long. » Alice ne voulut pas accepter cette conclusion avant de savoir l'âge du Lory, et comme celui-ci refusa tout net de le lui dire, cela mit un terme au débat. Enfin, la souris, qui paraissait avoir un certain ascendant sur les autres, leur cria « Asseyez-vous tous et écoutez-moi. Je vais bientôt vous faire sécher, je vous en réponds. » Vite, tout le monde s'assit en rond autour de la souris, sur qui Alice tenait les yeux fixés avec inquiétude, car elle se disait « Je vais attraper un vilain rhume si je ne sèche pas bientôt. » « fit la souris d'un air d'importance. « Êtes-vous prêt? Je ne sais rien de plus sec que ceci. Silence dans le cercle, je vous prie. » Guillaume le Conquérant, dont le pape avait embrassé le parti, soumit bientôt les Anglais, qui manquaient de chefs, et commençaient à s'accoutumer aux usurpations et aux conquêtes des étrangers. Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie, fit Lory qui grelottait. « Pardon ?» demanda la souris en fronçant le sourcil, mais fort poliment. « Qu'avez-vous dit ?»«
Moi, rien !» répliqua vivement le Lory.
« Ah, je croyais !» dit la souris. « Je continue. Edwin et Morcar, comtes de Mercy et de Northumbrie, se déclarèrent en sa faveur. Et Stigan, l'archevêque patriote de Canterbury, trouva cela...
« Trouva quoi ?» dit le canard.
« Il trouva cela, » répondit la souris avec impatience. « Assurément, vous savez ce que cela veut dire. »«
Je sais parfaitement ce que cela veut dire. Par exemple, quand moi j'ai trouvé cela bon, cela veut dire un ver ou une grenouille. » ajouta le canard. « Mais il s'agit de savoir ce que l'archevêque trouva. »
La souris, sans prendre garde à cette question, se hâta de continuer. « L'archevêque trouva cela de bonne politique d'aller avec Edgar Atling à la rencontre de Guillaume pour lui offrir la couronne. Guillaume d'abord fut bon prince, mais l'insolence des vassaux normands...
« Eh bien, comment cela va-t-il, mon enfant ? »
ajouta-t-elle en se tournant vers Alice.
« Toujours aussi mouillée, » dit Alice tristement. « Je ne sèche que d'ennui. »
« Dans ce cas, » dit le dodo avec emphase, se dressant sur ses pattes,
« je propose l'ajournement et l'adoption immédiate de mesures énergiques. »
« Par les Français, » dit l'aiglon. Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots. Et qui plus est, je ne crois pas que vous les compreniez vous-même. »
L'aiglon baissa la tête pour cacher un sourire, et quelques-uns des autres oiseaux ricanèrent tout haut.
« J'allais proposer, » dit le dodo d'un ton vexé, « une course cocasse. C'est ce que nous pouvons faire de mieux pour nous sécher. »«
Qu'est-ce qu'une course cocasse ?»
demanda Alice. Non qu'elle tint beaucoup à le savoir, mais le dodo avait fait une pause, comme s'il s'attendait à être questionné par quelqu'un, et personne ne semblait disposé à prendre la parole.
« La meilleure manière de l'expliquer, » dit le dodo, « c'est de le faire. »
Et comme vous pourriez bien, un de ces jours d'hiver, avoir envie de l'essayer, je vais vous dire comment le dodo s'y prit. D'abord, il traça un terrain de course, une espèce de cercle.
« Du reste, » disait-il, « la forme n'y fait rien. »
Et les coureurs furent placés indifféremment, çà et là sur le terrain. Personne ne cria.
« 1, 2, 3, en avant !»
Mais chacun partit et s'arrêta quand il voulut, de sorte qu'il n'était pas aisé de savoir quand la course finirait. Cependant, au bout d'une demi-heure, tout le monde étant sec, le dodo cria tout à coup.
La course est finie !»
Et les voilà, tous haletants, qui entourent le dodo et lui demandent « Qui a gagné ?» Cette question donna bien à réfléchir au dodo. Il resta longtemps assis, un doigt appuyé sur le front, pose ordinaire de Shakespeare dans ses portraits, tandis que les autres attendaient en silence. Enfin, le dodo dit « Tout le monde a gagné et tout le monde aura un prix. »
« Mais qui donnera les prix ?»
demandèrent-ils tous à la fois.
« Elle, cela va sans dire !»
répondit le dodo en montrant Alice du doigt. Et toute la troupe l'entoura aussitôt en criant confusément « Les prix ! Les prix !» Alice ne savait que faire. Pour sortir d'embarras, elle mit la main dans sa poche et en tira une boîte de dragée. Heureusement, l'eau salée n'y avait pas pénétré. Puis en donna une en prix à chacun. Il y en eut juste assez pour faire le tour.
« Mais il faut aussi qu'elle ait un prix, elle !» dit la souris.
« Comme de raison !» reprit le dodo gravement.
« Avez-vous encore quelque chose dans votre poche ? »
continua-t-il en se tournant vers Alice.
« Un dé, pas autre chose !»
dit Alice d'un ton chagrin.
Faites passer, dit le dodo.
Tous se groupèrent de nouveau autour d'Alice, tandis que le dodo lui présentait solennellement le dé en disant
« Nous vous prions d'accepter ce superbe dé. »
Lorsqu'il eut fini ce petit discours, tout le monde cria « Hurrah !» Alice trouvait tout cela bien ridicule, mais les autres avaient l'air si graves qu'elle n'osait pas rire. Aucune réponse ne lui venant à l'esprit, elle se contenta de faire la révérence et prit le dé de son air le plus sérieux. Il n'y avait plus maintenant qu'à manger les dragées, ce qui ne se fit pas sans un peu de bruit et de désordre, car les gros oiseaux se plaignirent de n'y trouver aucun goût, et il fallut taper dans le dos des petits qui s'étranglaient. Enfin, tout rentra dans le calme. On s'assit en rond autour de la souris, et on la pria de raconter encore quelque chose.
« Vous m'avez promis de me raconter votre histoire, » dit Alice, « et de m'expliquer pourquoi vous détestez les chats et les chiens, »
ajouta-t-elle tout bas, craignant encore de déplaire. La souris, se tournant vers Alice, soupira et lui dit
« Mon histoire sera longue et traînante.
« Tiens, tout comme votre queue !»
dit Alice, frappée de la ressemblance, et regardant avec étonnement la queue de la souris, tandis que celle-ci parlait. Les idées d'histoire et de queue longue et traînante se brouillaient dans l'esprit d'Alice à peu près de cette façon. Canichon dit à la souris qu'il rencontra dans le logis. « Je crois. « Le moment fort propice de te faire aller en justice. Je ne doute pas du succès que doit avoir notre procès. Vite, allons, commençons l'affaire. Ce matin, je n'ai rien à faire. » La souris dit à Canichon « Sans juge et sans juré, mon bon !» Mais Canichon, plein de malice, dit « C'est moi qui suis la justice !» Et que tu aies raison ou tort, je vais te condamner à mort.
Vous ne m'écoutez pas, dit la souris à Alice d'un air sévère. À quoi pensez-vous donc?
Pardon, dit Alice humblement, vous en étiez au cinquième détour.
Détour? Dit la souris d'un ton sec. Croyez-vous donc que je manque de véracité?
Des véracités? Oh, je puis vous en fournir quelques-uns.
Dit Alice, toujours prête à rendre service.
« On n'a pas besoin de vous, » dit la souris. « C'est m'insulter que de dire de pareilles sottises. »
Puis elle se leva pour s'en aller.
« Je n'avais pas l'intention de vous offenser, » dit Alice d'une voix conciliante. « Mais franchement, vous êtes bien susceptible. »
La souris grommela quelque chose entre ses dents et s'éloigna.
« Revenez, je vous en prie, finissez votre histoire !» lui cria Alice.
Et tous les autres dirent en cœur « Oui, nous vous en supplions !»
Mais la souris, secouant la tête, ne s'en alla que plus vite.
Quel dommage qu'elle ne soit pas restée !»
dit en soupirant le Lory, sitôt que la souris eut disparu.
Un vieux crabe, profitant de l'occasion, dit à son fils
« Mon enfant, que cela vous serve de leçon et vous apprenne à ne vous emporter jamais. »
« Taisez-vous donc, papa, »
dit le jeune crabe d'un ton aigre.
« Vous feriez perdre patience à une huître. »
« Ah, si Dinah était ici !»
dit Alice tout haut sans s'adresser à personne.
« C'est elle qui l'aurait bientôt ramenée. »
« Et qui est Dinah, s'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander ?»
dit le Lory. Alice répondit avec empressement, car elle était toujours prête à parler de sa favorite.
« Dinah, c'est notre chatte. Si vous saviez comme elle attrape bien les souris, et si vous la voyez courir après les oiseaux, aussitôt vue, aussitôt croquée. »
Ces paroles produisirent un effet singulier sur l'assemblée. Quelques oiseaux s'enfuirent aussitôt. Une vieille pie, s'enveloppant avec soin, murmura
« Il faut vraiment que je rentre chez moi. L'air du soir ne vaut rien pour ma gorge. » Et un canari cria à ses petits d'une voix tremblante « Venez, mes enfants, il est grand temps que vous vous mettiez au lit. »
Enfin, sous un prétexte ou sous un autre, chacun s'esquiva. Et Alice se trouva bientôt seule.
« Je voudrais bien n'avoir pas parlé de Dinah, »
se dit-elle tristement.
« Personne ne l'aime ici, et pourtant c'est la meilleure chatte du monde. Oh, chère Dinah, te reverrai-je jamais ?»
Ici, la pauvre Alice se reprit à pleurer. Elle se sentait seule, triste et abattue. Au bout de quelque temps, elle entendit au loin un petit bruit de pas. Elle s'empressa de regarder, espérant que la souris avait changé d'idée et revenait finir son histoire.